RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Press, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Valérie Thorin, Afrikasie, et Dimas Dzikodo, le forum de la semaine publié à Lomé au Togo. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. La RDC, où les principales forces de l'opposition ont formé une alliance pour faire respecter l'alternance à la tête du pays en temps et en heure. La Libye, où le groupe État islamique est acculé dans son fief de Sirte dans le nord du pays. Et puis le Cameroun, retour sur le procès en appel de l'ancien secrétaire général de la présidence et ministre Marafa Amidou Yaya. D'abord la RDC, donc, avec ce conclave de Janval, du nom de cette localité de la banlieue chic de la capitale belge Bruxelles, où les principales forces de l'opposition ont donc noué une alliance en fin de semaine dernière en vue, Denise, d'obtenir le départ de Joseph Kabila au terme de son dernier mandat, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Alors, cette rencontre a été placée sous la houlette de la figure historique de l'opposition, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi. Ça s'est tenu en Belgique car le leader de l'UDPS est toujours soigné en Belgique, dit-on. Pareil d'ailleurs pour Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga et figure montante de l'opposition. Alors, en attendant, une hypothétique candidature unique donc de l'opposition à la présidentielle, il y a au moins donc cette alliance pour obtenir que Joseph Kabila partent en temps et en heure.
En partie, parce que je dirais que c'est, pour l'heure, c'est qu'une ébauche de front, parce qu'il y avait quand même de grands absents à cette réunion de Bruxelles, notamment le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'UNC de Vital Kamerhe. La seule chose sur laquelle l'opposition est d'accord aujourd'hui, c'est le départ de Kabila après la date de la scène politique après le 27 novembre 2016, mais rien n'étant mis en œuvre pour organiser ces élections. Il est évident qu'elles n'auront pas lieu à la date prévue. Et il faut rappeler quand même qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir.
Absolument.
Au-delà de cette date, puisqu'il ne rendra le pouvoir qu'après l'installation d'un président élu. Or, on sait très bien que le 27 novembre, il n'y aura pas d'élection. Et je pense que la réunion de Bruxelles n'avait pas pour objectif que l'opposition se range comme un seul homme derrière
une candidature unique
et derrière Tshisekedi qui est quand même le patriarche, parce qu'il faut quand même rappeler que lui espère mener ce dernier combat, c'est-à-dire accéder à la magistrature suprême, même s'il sait très bien que physiquement il n'en a plus les moyens
à 83 ans.
Je crois que l'objectif de l'opposition aujourd'hui, c'est de reconnaître que Tshisekedi est le seul capable de mobiliser les Congolais avec un seul mot d'ordre, c'est qu'il les invite à descendre dans la rue.
C'est ça.
Parce que tous rêvent aujourd'hui d'un scénario burkinabé. Mais on en est encore loin.
On en est loin. Justement, Valérie Thorin, la réplique de Kinshasa n'a pas tardé. Les partisans de Joseph Kabila dénoncent une tentative de coup d'État institutionnel. Façon de rappeler que la Cour constitutionnelle a donné son feu vert. Les magistrats de la Cour constitutionnelle ont donné leur feu vert pour que Joseph Kabila reste au pouvoir au-delà de son mandat, en tout cas jusqu'aux prochaines élections.
Oui, Joseph Kabila doit transmettre son pouvoir à un successeur élu. Donc il est évident que dans son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de successeur élu. Alors, on est parti comme ça, on peut partir comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, même 50 ans. Parce que, certes, il y a une opposition politique, elle se rassemble, elle devient cohérente, mais maintenant, est-ce qu'il va y avoir une réponse populaire? C'est vrai que je suis d'accord avec Denise, ils rêvent d'un scénario à la Burkinabé, mais un scénario à la Burkinabé, c'est un tout petit pays et tout le monde était d'accord. Là, on peut se poser la question.
D'une cohésion. Alors, Dimas, on a entendu également des leaders du PPRD, c'est-à-dire le parti de Joseph Kabila, évoquer éventuellement l'hypothèse d'un référendum, dit-il, comme au Congo-Brazzaville ou comme au Rwanda, afin de tailler une constitution sur mesure qui permettrait éventuellement à Joseph Kabila de se maintenir indéfiniment au pouvoir.
Je pense que la manœuvre tend vers là, puisque la prolongation mise sur pied par la Cour constitutionnelle ne sera durée indéfiniment. Alors il faut trouver vraiment une légitimité avec pour base constitutionnelle de pouvoir permettre à Kabila de de briguer encore d'autres mandats. Je pense que toutes les manœuvres, c'est ça. Ce qui est malheureux, c'est que les leaders de poids qui peuvent valablement mobiliser les Aïrois sont à l'extérieur. Mm-hmm. Quand on parle de Tshisekedi...
Les Congolais, ils sont devenus Congolais depuis
Ah ouais, les Congolais, vraiment. Donc, quand on parle de Tshisekedi, quand on parle de Katumbi qui est venu récemment le rejoindre, je pense que c'est des leaders de poids financièrement et charismatiques qui peuvent mobiliser les Congolais. Mais malheureusement, ils sont déracinés. Et le jeu est pour le moment entre les mains du PPRD, mais jusqu'à quand?
Alors Denise, on imagine mal finalement que Kabila parte sur la base d'une seule mobilisation, je dirais, pacifique de l'opposition. Et quel que soit d'ailleurs le soutien de certaines puissances étrangères comme les États-Unis qui plaident en faveur de l'alternance.
Non, je crois qu'aujourd'hui, il se terre dans un mutisme puisqu'il n'a toujours pas dit qu'il a...
Ses intentions. Enfin, la décision de la Cour constitutionnelle en dit long.
En dit long, effectivement. Mais lui ne s'est jamais prononcé. Je crois qu'aujourd'hui, le PPRD joue sur l'usure des Congolais. C'est ça. Et puis, Kabila est bien conscient que les leaders de l'opposition ne seront jamais unis face à lui. Mmh. Il fait tout pour les diviser. Aujourd'hui, il y a Tshisekedi qui est le patriarche, tout le monde le reconnaît. Il y a Katumbi. Mais Vital Kamerhe est aussi partant pour cette élection. Mmh. On pense également à Bemba. Jean-Pierre Bemba, même si lui-même physiquement n'est pas là, puisqu'il a été condamné.
Mais le MLC est toujours actif.
Kabila joue sur l'usure, et je pense qu'à l'usure, il finira par avoir l'opposition congolaise.
Mmh. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer une réaction populaire à la Burkinabé, Dimas, en RDC, face à Kabila?
Pour le moment, c'est difficile.
Mais il y a eu des tendances. Il y a eu.
Oui, il y a eu des tendances.
Mais vite étouffé.
Avec Lucha et puis Filimbi.
C'est très très fébrile. Mm-hmm. C'était très fébrile.
Très limité.
Les mobilisateurs d'envergure ne sont pas là. Mm-hmm. Bemba, depuis sa détention, a apporté son soutien au front anti-Kabila, mais ça ne reste que ça.
Il faut conjuguer ça avec une dynamique politique.
Oui, avec une dynamique politique et surtout être sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est difficile. C'est difficile, très très difficile.
Voilà, RFI, TV5 Monde, Afrique Presse, on passe à la Libye, où la branche locale du groupe État islamique est en difficulté à Sirte. Sirte, ce port du nord du pays, ancien bastion de Muammar Kadhafi. On voit tout de suite quelques illustrations du sujet avec deux combattants, qui font partie de ces katibas, de ces groupes armés qui combattent les djihadistes donc à Sirte.
Nous sommes des musulmans, de vrais musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ils doivent être en prison. Daesh.
Si nous ne les arrêtons pas, ils iront jusqu'en Europe, puisqu'elle est toute proche. Et ils déverseront leur haine sur les populations, exactement comme ils le font ici. Ce sera une catastrophe pour l'ensemble des pays européens, car Daesh cultive une idéologie mortifère.
Voilà, deux combattants anti-djihadistes donc en Libye, à Sirte, Denise. Les djihadistes ne contrôleraient plus qu'entre 3 et 5 kilomètres carrés de cette ville, tout en multipliant, on le sait, les attentats meurtriers. Alors cette déroute annoncée résulte d'une offensive coordonnée lancée le 12 mai dernier par plusieurs katibas, donc des groupes de combattants affiliés au gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, le gouvernement d'Union nationale de Faez Sarraj. Et pour l'instant, donc, il y a une vive résistance qu'opposent ces rebelles, ces djihadistes à Sirte.
C'est vrai, mais on peut quand même se féliciter que cette offensive se fasse et vise à déloger l'État islamiste de Sirte. Mais sa question est de savoir pourquoi a-t-on laissé pourrir la situation. Et moi, je repense à cette phrase du président Idriss Déby, qu'il avait tenue lors d'un sommet à Dakar. En Libye, le service après-vente n'a pas été assuré.
Ce qui est vrai. Alors Dimas, ces katibas, ces groupes armés pro-gouvernementaux, sont très mal équipés. C'est-à-dire, il n'y a aucune aide non plus, finalement, des Occidentaux, des puissances occidentales qui les soutiennent, par ailleurs.
Oui, on envoie peut-être l'intelligence là-bas avec quelques forces spéciales, une dizaine ou à peine une vingtaine. Ils parlent de 15 forces britanniques et américaines qui sont là-bas, peut-être pour l'intelligence. Et ça s'arrête là, les forces spéciales. Et ça s'arrête là. C'est ce qui est dommage, parce que cette offensive qui est soi-disant soutenu par la communauté internationale, ne l'est que du bout des lèvres. Parce que si nous prenons par exemple le cas du général Khalifa Haftar, qui dirige le gouvernement qui est à l'Est et qui n'est pas reconnu
par la communauté internationale.
Alors que ce gouvernement participe, ou du moins les forces de ce gouvernement participent à l'offensive. Comment ? Est-ce qu'ils seront armés au même titre que le gouvernement légalement reconnu par la communauté internationale ? Donc il y a tout petit peu de rimbroglio là-bas, effectivement. Le service d'après-vente tarde à être assuré.
Alors, il y a effectivement, Denise, cette fracture politique soulignée il y a quelques instants par Dimas. C'est-à-dire, il y a effectivement ces groupes armés sous la houlette du général Khalifa Haftar qui dépendent du Parlement de Tobrouk, lequel Parlement de Tobrouk n'a toujours pas reconnu le chef du gouvernement, Faez, reconnu, lui, par la communauté internationale. Bref, tout ça donne une armée disparate, des groupes armés qui, au fond, continue à faire la loi.
Oui, mais parce qu'on est resté dans la même configuration qui prévalait du temps de Kadhafi. Ce sont des tribus qui forment la Libye. Et ce sont des tribus autonomes qui s'autogéraient sans le pouvoir, très loin du pouvoir central qu'exerçait quand même Kadhafi, même s'il arrivait à fédérer et à garder un certain calme au sein du pays, puisque tout a dégringolé à la chute de Kadhafi. Avant du vivant de Kadhafi, et tant qu'il était aux affaires, on voyait bien qu'il arrivait quand même à contenir tous ces groupuscules.
Les clivages entre différentes tribus. Tripoli et l'Est du pays.
Et le reste. Au point d'envisager même d'être le président des États-Unis d'Afrique.
Dimas, un mot sur ces clivages, cette atomisation finalement de la Libye.
Ouais, ça dénote de la complexité du cas libyen même. Je pense qu'il faut une implication, en bonne et due forme, de la communauté internationale, quel que soit le prix, pour pouvoir redresser, parce que...
Une implication claire, en tout cas.
Oui, on ne peut pas quand même laisser ce pays comme cela. Finalement, ça nuit à l'Occident et ça nuit aussi à l'Afrique.
Alors, le groupe État islamique acculé, dans son fief donc de Sirte en Libye, mais également en Syrie et en Irak, on l'a vu. Et d'un autre côté, ce groupe reste influent à l'extérieur, c'est-à-dire que on a vu ce carnage à Orlando aux États-Unis, près d'une cinquantaine de personnes tuées en raison... de leur orientation sexuelle, et puis ici en France, un couple de policiers tués, toujours au nom du groupe État islamique, c'est-à-dire que le mal perdure finalement.
Je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le même niveau. Il y a l'État islamique qui est armé, financé, etc., et qui combat sur le terrain. Il a son terrain de Syrie, il a son terrain de Libye. Et puis l'Irak, etc. Enfin, je veux dire, le Proche-Orient et l'Afrique. Et puis, il y a le phénomène des loups solitaires. Et c'est cela qui concerne les pays européens. Enfin, européens occidentaux, et occidentaux, y compris les États-Unis. Parce que il y a cette idéologie ambiante qui traîne de djihad, de reprendre un peu la main sur l'influence occidentale. Et n'importe quel personnage radicalisé, qu'il soit sain d'esprit ou pas d'ailleurs, envisage de faire une opération et au moment T-5, -1, il va dire je fais allégeance à l'État islamique, et les autres ils disent quel bonheur. Donc c'est deux choses très différentes contre lesquelles on ne combat pas de la même manière. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est des tragédies comme Orlando. Mais si on revient en arrière, ça a commencé avec Mohamed Merah, en France.
On en vient à notre dernier sujet, un retour sur ce procès en appel au Cameroun de Marafa Milou Yaya. La Cour suprême a donc confirmé, Denise, la condamnation en première instance de l'ancien ministre et secrétaire général de la présidence pour complicité intellectuelle dans une affaire de corruption, en réduisant cependant la peine de 25 à 20 ans. Alors deux interrogations sur l'indépendance de la justice au sujet de la procédure, notamment pourquoi la Cour suprême n'a pas motivé sa décision, contrairement à l'usage, et puis deuxièmement, pourquoi le verdict, disent ses avocats, a été rendu. rendu en pleine nuit, quasiment en catimini.
Moi, je retiens deux choses dans ce procès. La première, c'est la réduction de la peine, puisque en première instance, il avait écopé de 25 ans et aujourd'hui, il est condamné à 20 ans de réclusion. La seconde, c'est justement cette impartialité de la Cour qu'a relevé à juste titre son avocate, maître Alice Combe, et ce qui dénonçait une justice, une Cour aux ordres du pouvoir politique, ce qui laisse entendre qu'aujourd'hui, Marafa Hamidou Yaya n'est donc plus jugé pour les crimes économiques qu'il aurait commis, mais bien pour des raisons politiques. Parce que c'est moins pour cette indélicatesse de gestion qu'il est sanctionné que pour l'ambition politique qu'il a affiché au lendemain de son départ à la fois de la présidence mais également du ministère de l'Intérieur, et c'est ce qu'on lui fait payer aujourd'hui, comme on le fait payer d'ailleurs à son notaire, Abdoulaye Arissou, qui a été arrêté il y a 2 ans.
C'est ça.
Et dans ce genre d'affaires politiques, ce n'est pas la justice qui tranche. Au final, c'est le président.
C'est ça.
En accordant une grâce ou pas, et c'est ce qu'on attend.
Voilà. Alors effectivement, Valérie, la plupart la défense, pas seulement la défense, mais aussi des observateurs extérieurs, les États-Unis, estiment effectivement que Marafa est victime d'un règlement de compte politique.
Ce que je trouve tragique, c'est que le président Paul Biya a 82 ans. Il est là déjà depuis un certain
83.
Temps.
83. Voilà.
Donc il est déjà là depuis un temps certain. Et qu'il va falloir tout de même, sachant que nul n'est immortel, qu'il prépare une certaine forme de succession. Et ces personnages auxquels il s'en est pris, pour des raisons économiques qui sont des raisons cosmétiques, sont l'élite de sa nation. Moi, je trouve ça absolument tragique. Ça dénote une inconséquence qui véritablement va aller à l'encontre des intérêts du pays. Même si on peut imaginer qu'il n'y ait pas alternance. Après tout, parler d'alternance en RDC, mais il pourrait ne pas y avoir d'alternance. Il pourrait y avoir une succession du même parti.
Mais au moins oxygéner le débat politique.
Et permettre à une élite de monter de proposer des solutions économiques et de développement, etc.
Dimas ?
Non, c'est vrai que cela pose la problématique de la longévité de Biya au pouvoir, mais en même temps, il faut voir aussi les faits. C'est les faits aussi qui m'intéressent. Vous savez, ça se passe partout en Afrique, même au pays, chez nous au Togo, le problème s'est posé avec l'avion présidentiel où, au niveau de l'achat, certains ont eu à détourner beaucoup de fonds pour pouvoir acheter des carcasses au cimetière d'avions en Tennessee, et ça a causé des problèmes. Donc, le problème de fond est là. Maintenant, les cosmétiques politiques, oui, je pense que...
Mais ça devient monnaie courante, Denise. Regardez, Mokoko est neutralisé au Congo-Brazzaville. Katumbi se voit accusé de recrutement de mercenaires. Bref, on instrumentalise quand même souvent la justice à des fins politiques en Afrique.
Mais malheureusement, oui. Malheureusement, c'est courant. Mais en même temps, les mises en cause aussi prêtent flanc, quelque part, en posant des actes répréhensibles aussi. Bon, c'est pas la longévité du pouvoir des présidents qui va faire maquiller ces faits, mais en même temps, ça sert d'argument pour pouvoir instrumentaliser la justice quelque part.
Un dernier mot, Valérie.
Toute manipulation prend sa source quand même dans des choses concrètes, et on ne peut pas nier que le Cameroun ne soit pas particulièrement bien placé au point de vue de la lutte anticorruption, le niveau de corruption.
Oui, parce qu'il y a encore des personnalités au pouvoir actuellement.
Et puis il faut préciser que cette lutte anticorruption avait été imposée par les institutions de Bretton Woods. C'est ce qu'on a appelé l'opération Épervier.
Exactement. Donc du coup, c'est un grand marigot, et chacun essaie de tirer les ficelles qui vont lui servir à ses ambitions personnelles et privées.
Y compris donc à la tête de...
À la tête de l'État.
C'est que c'est de grands pontes, et donc eux aussi ils ont des ficelles qui tirent au niveau de la justice. On introduit volontairement quelques vices de procédure pour crier
C'est la fin. Merci beaucoup, Dimas. C'est la fin de cette émission. Merci, Dimas Zikodo. Merci, Denise Epoté, ainsi qu'à vous, Valérie Thorin, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette émission est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Encore merci de votre fidélité à Afrique Presse.